Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h46, c'est le petit déjeuner politique de Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.
Bonjour Cédric O.
Bonjour.
Il y a beaucoup de choses à dire sur le numérique, ici très concret pour le grand public qui attend ça. Bon, d'abord sur le plan de relance qui va permettre à... Enfin, en tout cas, vous le souhaitez, permettre à la France de remonter la pente. Est-ce que c'est jouable ou pas? Avant d'aller sur les annonces en détail, quand même, il y avait Éric Woerth qui était à notre micro hier matin, qui s'y connaît en matière de finances. Il dit « on dépense, on creuse la dette et c'est une bombe à retardement ». Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je pense que ce qui serait pire, c'est de ne rien faire et de laisser l'ensemble de l'économie française s'écrouler. Ouais. Les petites entreprises, les TPE, les PME, parce que c'est elles qui vont prendre... C'est pour elles que ça va être très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'abord d'investir beaucoup pour les aider à passer la crise, avec le prêt garanti par l'État, le chômage partiel. Et là, de réinvestir maintenant pour préparer les 10 ans à venir. Parce que si on regarde un peu ce qui s'est passé lors de la dernière crise, en fait, en 2008, c'est là, on en parlait tout à l'heure, que les GAFA ont construit leur puissance, parce qu'ils ont profité du fait qu'eux avaient plein d'argent et que les autres allaient mal pour repartir de l'avant. Donc, on ne veut pas ça. On veut, nous aussi, tirer parti de cela pour transformer la France et préparer les 10 ans à venir. Donc, c'est pour ça qu'on investit. La dette, elle, on la paiera le moment venu, mais par ailleurs, on bénéficie en ce moment de taux d'intérêt qui sont très très bas, donc c'est maintenant qu'il faut investir, parce que sinon on n'investit pas, si les autres le font, ben alors c'est nos sociétés qui vont tomber et les autres vont en profiter.
Alors les 7 milliards là justement, qui sont directement pour le numérique, ils vont servir à quoi?
Alors ils vont servir à 3 choses principales. La première chose, c'est d'investir dans notre écosystème technologique pour faire grandir nos entreprises du numérique. Pourquoi c'est important? Il y a un fait, je ne sais pas si vous l'avez noté cet été, Apple, aujourd'hui, vaut plus que les 40 plus grandes entreprises françaises conjuguées. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est faire émerger des champions français, des champions européens, continuer à investir dans la technologie, parce que c'est comme ça qu'on créera des emplois. En 2019, le numérique est le secteur qui a créé le plus d'emplois en France. Donc, il faut qu'on forme les gens au numérique, il faut qu'on accompagne la transition, mais on a besoin de faire en sorte d'avoir nous-mêmes nos propres GAFA. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut investir dans le numérique du quotidien. On l'a vu avec le confinement. Le numérique, c'est super, ça simplifie la vie, ça permet beaucoup de facilité.
Oui, de travailler un peu à distance,
ça permet de travailler à distance, etc. Ouais. Mais pour tous ceux qui sont coupés du numérique...
Il y en a qui disent, attention, ça détruit des emplois, on va revenir dans un instant.
Mais pour tous ceux qui sont coupés du numérique, ça peut être l'enfer. D'ailleurs, le confinement a été très dur pour une partie des gens qui étaient coupés du numérique. Donc, on investit sur 2 choses, et massivement. D'abord, j'ai annoncé hier, avec Jacqueline Gourault et Bruno Le Maire, la généralisation de la fibre sur tout le territoire, sur 100% du territoire français d'ici 2025. Donc on met de l'argent pour fibrer tout le territoire, pour connecter tout le monde. Première chose. Et deuxième chose, on fait un effort historique.
2025, tout le territoire
sera fibré.
Alors là, les gens qui sont au fin fond du Gers, qui nous entendent, 2025, ils pourront avoir la fibre. La fibre, c'est ce qui permet d'avoir plus de débit chez soi.
Exactement. C'est assez simple. On veut considérer à partir de maintenant la fibre comme un service universel. C'est-à-dire, comme à un moment, on a déployé les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, on considère, ça va prendre un peu de temps, parce qu'il faut quand même tirer les câbles, donc on veut considérer que vous avez, d'ici 2025, vous aurez le droit au raccordement. Et ça, c'est vraiment un principe de base. Et le deuxième élément, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la connexion, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas servir d'internet.
Alors ça, c'est vrai.
Et donc, on met 250 millions d'euros, parce qu'on veut plus de formateurs, plus de lieux de formation, pour faire en sorte d'envoyer partout en France des gens qui vont accompagner les gens dans leurs usages. Le numérique, il est là, il ne va pas disparaître. Ce qu'il faut faire, c'est aider les gens à s'en servir, parce qu'il y a trop de personnes. Vous vous rendez compte, il y a 1 Français sur 6 qui n'utilise pas un ordinateur, qui n'utilise jamais un ordinateur, et 1 Français sur 3 qui manque de compétences de base. Donc, bien sûr, c'est important.
S'ils n'utilisent pas d'ordinateur, ils utilisent quand même des portables où il y a des fonctions.
Mais c'est pas la même chose. D'envoyer un message WhatsApp ou de faire une visio et de remplir ses impôts sur Internet ou de s'actualiser sur Pôle emploi. Et souvent, les gens, évidemment, ils savent communiquer avec leurs proches, etc. Pas tous, mais il y en a qui savent le faire. Par contre, dès qu'il s'agit de déclarer ses impôts, d'aller regarder ses comptes en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça crée une fracture qui vient s'ajouter à d'autres fractures.
C'est complexe et paradoxal un petit peu, en fait, le numérique. Parce que d'un côté, évidemment, vous dites que ça va créer en fait, beaucoup d'emplois et il faut mettre de l'argent sur la table. Et puis de l'autre, il y en a certains qui disent oui, mais ça détruit en fait, de l'emploi aussi, les commerces, un tas d'autres services qu'on n'aura plus. Bah, vous parlez des impôts, donc ça veut dire qu'il y aura moins de monde également pour être dans les bureaux.
C'est aussi pour ça, par exemple, que dans le plan de relance, on va dédier 400 millions d'euros à accompagner la transition numérique des TPE-PME. Je vous prends un exemple très concret. J'étais il y a 3 semaines à Alès pendant mes vacances. Et pendant le confinement, pour aider les commerçants locaux, la ville a mis en place une plateforme où, en fait, vous pouviez aller sur Internet, commander chez votre commerçant à côté. Mais je pense que c'est ça, l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut garder les commerces, mais il faut qu'ils tirent parti du numérique pour faire face au e-commerce et à Amazon et pour défendre leur existence. L'e-commerce, les gens, ils commandent en ligne, c'est là. C'est pas les e-commerçants ni Amazon qui décident que les Français commandent en ligne. Vous, moi, on commande en ligne.
Ouais.
Il faut faire en sorte que ça profite à la fois à notre petit libraire et à nos marchands de jouets à côté, et puis que ça profite à l'économie globale. Mais pour ça, il faut les accompagner, parce que personne ne sait le faire.
Oui, c'est vrai, Cédrico. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est l'économie globale. Donc, globale, ça peut être aussi les Chinois, les Américains, vous l'avez parlé des GAFA. Comment les Français, ou peut-être au niveau européen, mais même déjà français, on peut réussir face à ces géants? Les patrons dans le digital, comme Frédéric Mazella, disent que c'est bien votre plan, mais ça ne va pas assez loin. Il n'y a pas assez d'ambition face aux Chinois, Américains et même les Allemands.
J'ai parlé hier à Frédéric Mazella, je pense que dans le fond,
bah vous avez vu, c'est
assez
ce qu'il
content.
A dit.
Ouais. Oui, je pense que ses propos n'ont pas été totalement fidèlement retranscrits, mais en l'espèce, je lui ai parlé. Il faut regarder ce qui se passe en Europe. Il n'y a pas un pays qui investit plus dans ses startups que la France. Il n'y a pas un pays qui fait plus pour son écosystème numérique que la France. Il n'y a pas un pays qui, dans le cadre de son plan d'enlance, à la fois globalement et sur les startups, a mis autant d'argent que la France. Donc, on peut toujours dire que ce n'est pas assez. Mais moi, ce que je constate, c'est que d'abord, l'écosystème numérique, les entreprises du numérique en France, elles sont de plus en plus nombreuses. Il n'y en a pas qu'à Paris. Il y en avait à LS où j'étais. Il y en a dans toutes les villes de France. Elles créent de l'emploi. C'est le premier secteur créateur net d'emploi en France. Et à tous les niveaux de compétences, et de plus en plus dans tout le territoire.
Donc, bien on aura des géants du numérique en France.
Et ça prend un peu de temps à bâtir.
Ouais.
On a déjà 9 entreprises qui valent plus d'un milliard d'euros. On en a 5 qui sont nées dans les 2 dernières années. Une encore il y a 2 semaines. Donc, moi, j'ai très bon espoir pour que d'ici 5 ans, on ait fait émerger des grosses entreprises qui sont maintenant, et que certains de nos champions, comme on connaît aujourd'hui LVMH, Renault, que ça, soient des entreprises du numérique.
Bon, alors c'est très bien, Cédric. Oh, la fibre, ça c'est une bonne nouvelle en fait pour tout le monde. Il y a alors l'autre dossier qui est très délicat, sensible, c'est la 5G aujourd'hui. Est-ce que il va bien y avoir la mise à disposition des fréquences comme prévu là? Le calendrier n'est pas repoussé fin septembre, le 29.
J'ai eu l'occasion de dire que nous tiendrons le calendrier qui a été évoqué, qui est celui de fin septembre.
Oui, c'est ça, fin septembre.
Exactement. J'ai bien conscience des débats. Moi, ce que je veux d'ici là, c'est avoir l'occasion notamment de rencontrer les élus locaux, les élus territoriaux et les associations qui en parlent. On aura l'occasion de communiquer sur le sujet.
Oui, parce qu'eux disent qu'il faut un moratoire, attention, prudence. Qu'est-ce que vous leur répondez?
C'est sensible, beaucoup de temps de rentrer dans le sujet. Il me semble que les fréquences qui seront mises sur le marché à la fin de l'année, qui ne sont pas les fameuses fréquences 26 GHz qui viendront dans plusieurs années et qui peuvent poser certaines questions, elles sont des fréquences bien connues. Qui sont déjà utilisés par d'autres choses, comme les boucles locales radio, qu'on connaît bien.
Et là, il n'y a pas forcément de danger pour la santé.
Non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous n'avez jamais vu quelqu'un venir avec des boutons, parce qu'il y avait une boucle locale radio à côté. Donc, il y a des questions qui peuvent se poser éventuellement sur les ondes millimétriques, c'est un peu le technique, c'est-à-dire la technologie 5G qui viendra dans plusieurs années. Et donc, je pense que là, il faut continuer à approfondir ce qu'on sait. Il y a des questions qui peuvent se poser sur les normes des téléphones. Il faut vérifier que les normes des téléphones sont bonnes et qu'on vérifie qu'elles sont bien respectées et les normes d'émission. Je rappelle que, en général, par rapport au seuil, quand vous vous baladez dans la rue à Paris, le niveau d'exposition aux ondes est 10 fois inférieur au seuil minimum, au seuil maximum, pardon.
Ouais.
Et donc, bon, je pense qu'il faut. Il y a des inquiétudes qui sont légitimes, il faut continuer à en parler.
Oui.
On aura l'occasion d'en parler, mais voilà, on tiendra...
Bon, d'accord, donc vous lancez quand même, vous maintenez le calendrier et vous allez discuter avec les élus locaux.
Les écologistes.
Alors, il y a un petit souci quand même aussi avec Huawei, le chinois, la technologie qui équipe notamment certains. Free, j'ai vu, conteste un petit peu le fait que vous voulez les écarter. C'en est où, en fait, de ce dossier?
Écoutez, la 5G, justement, elle pose un certain nombre de questions en termes de souveraineté nationale et de défense des intérêts légitimes.
Non, mais c'est important, oui.
Ce que je constate, c'est qu'il n'y a personne qui est exclu. C'est-à-dire, l'ANSSI, qui délivre les autorisations, a délivré des autorisations à tous les équipementiers, y compris l'équipementier chinois, que vous évoquiez.
Ouais.
Après, il est vrai qu'à certains endroits, dans certaines situations, dans certaines configurations techniques, on préfère... défendre la souveraineté française, et je trouve qu'on est légitime à le faire.
Oui, parce que tout le monde est bien. Vous êtes d'accord avec les déclarations des Américains qui craignent un espionnage des Chinois à travers la 5G?
Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Je constate, c'est qu'on a donné des autorisations à tout le monde, sauf qu'on a dit, il y a certains endroits, on préfère que ce soit certains opérateurs plutôt que d'autres, ou dans des configurations techniques, on préfère que ce soit certains opérateurs plutôt que d'autres. On est très contents, et je le dis ici, que les Chinois investissent en France. on en a besoin. Oui. Après, il est normal qu'on se préoccupe de notre souveraineté nationale.
Non, mais c'était bien de préciser en fait les choses, parce qu'il y a beaucoup de questions hein, qui se posent un peu partout, et on a souvent des appels d'auditeurs. Question avec Cécile autour de Stop Covid. Hein,
oui,
aussi.
Justement, Stop Covid, c'est un flop, hein, 2 300 000 Français seulement. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? La peur, parce que la CNIL vous a demandé justement de justifier l'utilité de cette application pour des problèmes d'irrégularité quant aux données personnelles, c'est ça qui...
Je ne pense pas. Alors, il faut poser les questions de manière assez pragmatique. Est-ce que...
C'est quelqu'un partout dans le monde, hein, ça marche nulle part.
Non, ça marche en Allemagne.
Enfin, Allemagne,
en Allemagne, ça marche plutôt bien, ça marche en Suisse. En Italie, c'est un tout petit peu plus que nous. Je pense qu'il y a de la communication à faire. Je pense qu'il y a effectivement certaines préventions à lever. S'agissant de la CNIL, a priori, elle devrait communiquer, je pense, dans les heures ou les jours à venir. Et je n'ai pas trop d'inquiétude sur son évaluation. Après, il faut voir les choses. Est-ce que cette application pourrait être plus utile qu'elle l'est aujourd'hui si elle était plus téléchargée? C'est sûr. Est-ce que ce serait bien que les gens la téléchargent plus parce qu'elle vient donner une indication? C'est sûr. Est-ce qu'il ne fallait pas la faire? Je ne pense pas. C'est un petit peu, je lisais un de vos confrères qui l'a comparé à une ceinture de sécurité que les gens n'utiliseraient pas. Pourtant, on est quand même content qu'elle soit là. Et il faut qu'avec Olivier Véran, on voit ce qu'on fait, ce qu'on recommunique. Est-ce qu'on a besoin de plus de pédagogie? Je pense qu'on a besoin de plus de pédagogie. Je constate que les gens ne savent pas, par exemple, qu'il ne faut pas la fermer pour qu'elle soit utile. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... il faut la garder en activité sur le téléphone, même si vous n'êtes pas sur votre téléphone. Et puis, je constate qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. C'est sûr que dans une période où l'épidémie repart, ce serait très utile qu'il y ait beaucoup plus de monde qu'il est. Mais voilà, on doit encore continuer à travailler.
Merci Cédrico, secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, la fibre partout sur le territoire d'ici 2025. Et puis les autres débats, est-ce que viendront des géants du numérique en France?
On l'espère, bien sûr, pour
la souveraineté, c'est important ce que vous avez dit. Merci en tout cas de votre transparence et notamment aussi autour de la 5G qui est un dossier extrêmement délicat.
Et dans un instant, on va revenir sur la plainte qui vise Didier Raoult de l'Ordre des médecins.
On sera avec un infectiologue qui est neutre dans la partie. Donc on verra ce qu'il nous dira.
Et votre avis 0826 300 300, 7h58, on revient tout de suite.